Babette de Rosière, bonjour, bonjour.
Bonjour, bienvenue chez moi.
Soyez la bienvenue à Devenir pour Agir et merci de me recevoir chez vous à la case de Babette à Maule dans voilà. Les Yvelines.
D'abord dans ma propriété et sur cette propriété, il y a la case de Babette.
C'est un honneur.
C'est là que je vis aussi.
C'est là que vous vivez, c'est un honneur d'être là et merci de me consacrer un peu de votre temps. Vous êtes extrêmement surchargé.
Mon Dieu, surtout en ce moment, avec cette rentrée, c'est compliqué.
C'est compliqué.
C'est très compliqué. J'ai énormément de boulot. Je ne sais pas comment faire.
En merci.
Plus, j'ai plusieurs casquettes.
On va parler de toutes ces casquettes.
Oui.
Alors, Babette, je voudrais commencer par une citation de John Nicholson, l'acteur américain.
Oui.
Voilà tout simplement.
Il est particulier. Avec ses yeux là de feu, là, on dirait qu'il est un peu débile.
Et voilà ce qu'il dit.
Oui.
Je suis né sans le demander. Je vais mourir sans le vouloir. Alors laissez-moi vivre comme je veux.
Il a raison.
Voilà comment lui s'est présenté. Et vous, Babette de Rosière, qui êtes-vous?
Je dirais qu'il a raison parce que exactement, je suis né sans le demander. Sans le demander alors que je n'étais pas souhaité. Je n'étais pas un enfant désiré. Je vis comme j'ai envie et que personne ne m'embête, pour ne pas dire autre chose. Et je mourrai tout à fait épanoui pour aller faire la cuisine à Saint-Pierre. Voilà, c'est si simple que ça.
Il ne faut pas oublier Saint-Paul.
Ah ben, mais c'est Saint-Pierre, c'est lui qui a les clés du paradis. J'irai au paradis. J'ai fait tellement de bonnes choses sur la terre. Je peux qu'aller au paradis, n'est-ce pas?
On parlera de votre foi tout à l'heure, parce que j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors, je voudrais... quelques questions de sémantique.
Oh là.
Quelques questions de sémantique. Babette de Rosière, vous êtes archi connue du monde entier.
Oh là là.
Vraiment.
Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais bon.
Est-ce que tout simplement, vous pouvez en quelques lignes, très rapides, nous donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle?
Oh là là, en quelques lignes?
Quelques minutes simplement.
En quelques minutes? Oh là voilà. Là, s'il me faut parler de ma carrière professionnelle, j'en prends une journée minimum.
Les grands traits.
Mais les grands traits, c'est que bon, je suis arrivée à Paris pour des études et puis finalement, j'ai voulu être très très vite à ma charge parce qu'évidemment, comme je vous le disais, je n'étais pas un enfant désiré, donc il a fallu que je travaille, même si je suis née dans une famille aisée. Et donc, j'ai passé des concours pour trouver du boulot. Parce qu'à l'époque, quand on me voyait et que j'entrais quelque part pour demander du boulot, c'est sûr, quand on me voyait, on me disait que où il n'y a plus de place, il faut repasser demain, où on vous écrira. Et je savais pourquoi, mais bon, on passe de ces détails-là. Et finalement, c'est l'ORTF qui m'a appelé et j'ai commencé une carrière à la télévision.
Grande voilà. Animatrice de télévision.
L'ORTF, et là j'ai passé de très très bons moments, j'ai rencontré des personnalités formidables. Et pendant que j'étais à l'ORTF, j'ai voulu cuisiner. Eh oui, et j'ai cuisiné pour moi parce que je ne comprenais pas ce qu'on mangeait ici, parce que c'était pas tout à fait ma culture, même si je suis française. Et donc j'ai acheté des petites choses et je me suis mise comme ça à la cuisine, sans savoir comment ça se faisait réellement, puisque je n'avais jamais cuisiné chez mes parents. Donc j'ai cuisiné, je trouvais ça intéressant et je trouvais ça bon. Et je me suis dit, ben alors, ben tiens, la cuisine c'est quand même quelque chose d'intéressant puisque tu te fais plaisir, tu achètes des bons produits, tu cuisines, tu fais goûter à quelqu'un qui trouve ça beau, tu vois ses yeux qui s'écarquillent et tu te dis, ben tu donnes du bonheur. Et je me suis dit, voilà, je pense que je ferai ce métier-là. Et ça a commencé comme ça, j'avais ça en tête et j'ai quand même poursuivi la télévision à l'ORTF. J'ai connu toutes les stars qui passaient à la télévision, j'ai eu mes chroniques, je parlais des choses qui n'existent pas ici. C'est-à-dire je parlais des recettes de produits exotiques, de fruits exotiques, je donnais des explications sur le produit, je donnais aussi les qualités du produit, mais aussi je donnais des petits passages coquin sur le produit, de beauté sur le produit. Et ça intéressait tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la télé. On m'appelait pour me dire, Babette, tu n'as pas un petit secret pour nous? Babette, donne un petit secret de beauté. Et j'ai commencé comme ça et je suis restée 40 ans à la télévision et j'y suis encore.
Et vous y êtes encore?
Oui.
Puisque tous les dimanches, on peut vous voir sur BFM Paris.
Voilà, exactement. J'y suis encore.
Superbe. Voilà. Et alors, vous avez une très belle carrière, Babette, qui n'est pas terminée, qui se poursuit. La question de sémantique, vous êtes une grande chef cuisinière de cuisine. Quelle est la définition d'un chef? Pour vous, qu'est-ce qu'un chef?
Ben, le mot chef, ça veut dire qu'on dirige déjà des choses. Hein. Quand
Oui.
on est chef, de cuisine surtout, on est vraiment le chef d'orchestre. Et puis, c'est un peu militaire en cuisine. Hein. Il faut savoir ça, puisqu'on a des règles d'hygiène, des règles de comportement, des règles aussi au niveau social et tout. C'est un travail qui est compliqué, qui est difficile, mais tellement passionnant. Donc, il faut savoir gérer une équipe. Il faut savoir gérer les administrations.
C'est ça.
Il faut savoir gérer les hommes entreprenants qui arrivent. Ce sont des clients, mais il faut savoir les remettre à leur place gentiment. Et puis qu'ils savent qu'ils sont venus déjeuner et pas autre chose. Voilà. Et puis il faut savoir gérer aussi son espace. Parce qu'il y a des concurrents, parce que c'est un combat. Ce métier-là, c'est un métier qui est compliqué, mais tellement, qui donne tellement de bonheur. Mais parfois, le bonheur ne plaît pas à tout le monde.
Oui.
Donc là aussi, il faut se battre, il faut chercher. L'endroit idéal pour
C'est
s'installer,
ça.
essayer de travailler sereinement et puis plaire aussi à ses clients.
Surtout que dans la cuisine, vous êtes assez peu, faut dire quand même,
On est assez peu.
de féminin, de chef.
Mais quand j'ai commencé, c'était un scandale, c'était
Et
vraiment un
oui.
scandale. Quand moi je suis rentrée, j'ai un souvenir qui me revient tout le temps d'ailleurs, c'est que lorsque je suis allée voir un grand chef pour lui dire que j'ai envie d'apprendre la technique de la cuisine, parce qu'on n'apprend pas la cuisine. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, on n'apprend pas à cuisiner. C'est quelque chose qu'on a dans ses tripes, on est avec. On l'a, on ne sait pas d'où ça vient. C'est comme le jeune qui joue du piano et qui n'a jamais appris les notes de musique,
C'est
et
ça.
qui joue et qui entend de musique et qui hop. Qui joue, c'est comme quelqu'un qui prend un tissu et qui commence à couper, découper, et puis qui fait quelque chose. On ne
C'est
sait
ça.
pas le talent, le génie d'où ça sort. La cuisine, c'est la même chose. C'est quelque chose qu'on a dans ses tripes, c'est une pulsion. Si tu le ressens, tu ne le ressens pas. Mais en même temps, la technique de la cuisine, parce que c'est un vrai métier, la cuisine. La technique de la cuisine, il faut absolument passer par un professeur. Donc, j'avais été voir un grand chef, je me souviens très bien, dans un restaurant. Et c'est un ami qui m'a dit, va le voir, il est sympa, etc. etc. J'étais très jeune, je devais avoir 18 ou 19 ans. Et quand je suis arrivée dans la cuisine, on m'a dit, la serpillière, elle est là. Alors là,
Ah
c'était
oui.
le début de mon caractère. Quand il m'a dit que la serpillière était là, et comme j'ai ma langue un peu bien aiguisée, je ne me suis pas gênée pour lui dire là, il fallait mettre sa serpillière. Ah oui. Je lui ai dit, avec les mots français, parce qu'en français on peut dire tellement de choses, je lui ai dit exactement où il doit mettre sa serpillière et pour quel objet j'étais là.
C'est ça. Et vous l'avez remis en place.
En place totalement, et après,
Parfait.
ça s'est débridé.
Eh ben c'est
Alors, quand il voit
merveilleux.
ma tête, il pense que c'est la serpillière qui me ressemble. Ah non, mais
Non.
franchement. Non, non, mais ce jour-là, c'était en couleur, parce que moi, je ne me démonte pas. Hein. Je dis les choses.
Babette de Rosière, vous êtes une femme atypique,
Ah oui,
heureuse,
c'est le mot
atypique.
qu'on
C'est
puisse
le mot.
dire. Ah ben oui, heureuse, oui, ça
Et
c'est vrai. Mais
vous êtes heureuse, vous rayonnez d'une
je suis
joie.
heureuse parce que je le mérite, parce que
Oui.
je l'ai voulu,
Voilà.
parce que je me suis imposé des disciplines, je me suis
Oui.
imposé avant tout la réussite.
C'est ça.
Et je me suis dit, sans réussite, tu ne peux pas t'épanouir. Donc j'ai énormément travaillé.
Oui.
Et je revois encore des jours où je travaillais à bout de souffle, j'en pouvais plus, à dormir très peu, à me lever très tôt, à me coucher très tard. Mais je ne regrette pas ça parce que maintenant je suis tout à fait sereine et je vis des produits de mon
Vous êtes
travail.
une femme déterminée, ça se voit sur vous.
Ah
Mais
bon?
c'est ah oui, complètement. Mais c'est merveilleux. Je voudrais. On est dans votre. On est à Maule, dans votre magnifique propriété. Nous sommes à côté de votre restaurant, la Case de
De
Babette.
Babette?
Pouvez-vous nous en parler? Quelle
Alors,
est la.
ça a une histoire, la
Voilà.
case de Babette, ça a une histoire. Moi, je suis quelqu'un qui aime évidemment ce métier, donc j'ai voulu toujours évoluer dans ce métier. Quand j'ai commencé avec deux tables, je me suis dit, je ne vais pas me cantonner à deux tables. De deux tables, j'ai fait des économies, parce qu'il faut savoir, à l'époque, on ne prêtait pas aux gens qui installaient des restaurants et on ne prêtait pas surtout
Ah oui.
aux femmes antillaises qui arrivaient et qui disaient, voilà, je vais monter un restaurant parce qu'on ne nous prenait pas au sérieux. Bon, ça a changé, heureusement. Donc, j'économisais pour acheter plus grand, plus grand, plus grand. Donc, j'ai monté pas mal de restaurants. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le restaurant de Jorel Robuchon, qui était mon mentor, quelqu'un que
Que vous avez bien
j'adorais.
connu, oui.
Ah, c'est
Mais
quelqu'un
oui.
que je regrette beaucoup. Donc, voilà, donc c'est ce restaurant-là. Et puis, un jour, j'ai dit, bon, j'ai assez travaillé, il y a 10 ans de ça. J'ai dit, j'ai assez travaillé, j'arrête. mari a été l'homme le plus heureux du monde. Quand il m'a entendu dire, alors que j'avais plusieurs restaurants dans plusieurs endroits et dans des pays différents, il m'a dit, tu arrêtes. Il ne croyait pas ses oreilles. J'ai dit, oui, j'arrête tout. J'arrête tout, je ne fais plus rien, j'arrête, je prends ma retraite. Il m'a dit, il ne croyait pas. Et puis, 2 ans après, je lui dis, tu sais, il va falloir quand même qu'on monte un petit restaurant. Je lui dis, pardon. Il a dit, mais oui, mon enfant va monter un tout petit, quoi. J'ai commencé par un petit, on peut finir par un petit. Il m'a dit, il n'en est pas question. J'ai dit, oh là 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 là, comment je vais faire? Parce que j'avais vraiment envie de monter ce restaurant. Et puis, je me suis dit, voilà, eh bien, écoute, je vais monter le restaurant dans le garage. Il m'a dit, tu plaisantes? J'ai dit, non, non. Je dis, rassure-toi, je ferai un parking dans le parc, dans le jardin. On mettra les voitures et le garage qui sert de jacuzzi et tout ça, on va transformer ça en restaurant. Il n'était pas d'accord. Mais moi,
déterminé comme
quand
vous êtes.
J'ai envie de quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est comme quand je reprends quelque chose. Je suis une jusqu'au boutiste.
Vous êtes très fidèle.
Je vais jusqu'au bout. Quel que soit ce que je fais, je vais jusqu'au bout. C'est ma nature qui est comme ça. Même si on me dit, tu vois, le précipice est là. Si tu vas là-bas, tu te plantes, eh bien, je vais me rendre compte par moi-même.
C'est ça.
Je suis comme ça. Donc, j'ai attendu et un jour, il m'a dit, écoute, bon, monte ton restaurant. Quand il m'a dit ça, le lendemain, il y avait tous les ouvriers ici. Il ne comprend plus, il ne comprend plus rien. Il m'a dit, je comprends. Je lui ai dit, oui, mais j'avais prévu le coup. J'attendais le top.
Non, c'est
et c'est comme ça que j'ai monté la case de Babette, tout petit, qui avait 38 couverts, non, même 20 couverts au départ. Et puis maintenant, j'ai agrandi, j'ai fait une petite véranda, 38 couverts. Et puis l'été, on a un jardin, on peut mettre jusqu'à plus soir.
C'est magnifique. Et donc, c'est de la cuisine antillaise.
Ah c'est oui, la cuisine antillaise, mais c'est ma cuisine.
C'est votre cuisine.
C'est ma recette, mon identité se lit dans mon assiette. Oui. Paraît-il que les assiettes soient à mon image, c'est ce que les gens disent. Mais c'est mon identité que je mets fortement, que j'exprime fortement dans mon assiette.
Et quelle est votre identité?
Mon identité, c'est des couleurs. La cuisine créole, c'est une cuisine qui est tellement belle, il faut que dès que tu vois l'assiette, tu salives. Et donc, je mets des couleurs. Il y a plein de couleurs, ça chante dans l'assiette. Et puis, c'est mijoté, c'est des fois croquant. Quand tu vois ça, tu as envie de manger. Je prépare l'assiette de telle façon pour que tu sautes dessus. Voilà, tu sautes dessus.
Et ça marche parce que
vous
avez...
C'est comme une belle fille quand tu vois une belle fille, toi. Tu vois une belle fille poponnée qui passe, qui s'embrouille avec kilomètres de parfum derrière. T'as envie de précipiter le pas pour aller. T'as envie de précipiter le pas.
C'est pareil pour votre cuisine.
Eh bien, c'est pareil pour ma cuisine.
Non, mais ça donne envie, en tout cas.
Attends, mais moi, je suis là pour donner envie.
Mais oui, c'est ça.
Envie des papilles. Mm. Quand tu rentres, il y a...
Oui, non, mais alors... Et alors, en parlant de cuisine, bon, tout à l'heure, vous ne l'avez pas dit dans les grands traits de votre carrière, mais vous vous êtes, d'une certaine manière, lancé en politique.
Ah oui, ça, c'est voilà, à la fin. Moi, j'ai raconté toute ma jeunesse, oui, évidemment. Oui. Mais la politique est venue à moi, parce que je n'ai pas cherché la politique. Il y a Valérie, quelqu'un que j'aime beaucoup.
Donc Valérie Pécresse, la présidente de la région.
Elle venait ici, elle apprécie énormément la spécialité créole. Elle venait manger ici avec sa famille, son mari, les anniversaires et tout. Et puis un jour, elle m'a dit, mais Babette, avec le caractère que vous avez, je vous vois bien politique. Alors, je dis, certainement pas. Alors, j'ai répondu, certainement pas. Et puis finalement, petit à petit, c'est une personne, je me revois en elle parce qu'elle a du tempérament. Mmh. C'est quelqu'un qui a du tempérament, c'est quelqu'un aussi, elle est jusqu'au boutiste. Quand elle décide quelque chose, elle lâche pas. Elle ne lâche pas. Et c'est ça que j'apprécie chez Valérie Pécresse. La façon dont elle a tenu, et pourtant moi, je sais que quand je dis non, pour me faire revenir sur ma décision, il m'en faut beaucoup, hein. Mais elle, toute douce, tout ça, elle me donne les détails, on fera ci, on fera ça, tu verras. Voilà, tu es vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un clin d'œil d'outre-mer à la région de France. Il faut que tu représentes les outre-mer à la région de France. Et tout ce qu'elle me disait, c'était cohérent. Et puis la politique, c'est un combat pour les autres.
C'est ça.
C'est pas un combat pour soi, c'est investi pour les autres. C'est comme en cuisine.
Oui,
hein. Donc la cuisine et la politique, ça ne me change pas trop parce que je m'investis pour les autres.
Oui, et alors quelle est la définition de l'autre? Parce que vous dites pour l'autre, pour les autres. Qui est l'autre?
Les autres, ce sont mes compagnons de vie, ce sont mes clients, parce que mes clients, ce sont mes compagnons de vie. Je les vois régulièrement, on passe des moments de plaisir autour de la table, on trinque un coup, on chante, si on veut chanter, on vit, c'est la vie, quoi. J'ai choisi un métier où il y a la vie tout le temps. où il y a le bonheur tout le temps, où on rigole tout le
C'est
temps,
ça.
même si on travaille beaucoup. Il y a des gens charmants, ça m'apporte énormément. Et puis ma cuisine m'a fait voyager dans le monde entier.
Oui.
J'ai rencontré toutes les têtes couronnées, j'ai travaillé à l'ONU, j'ai travaillé partout.
Vous avez été la seule
oui.
femme pour les 70 ans de l'ONU, vous avez...
C'était en couleur, mais j'ai
oui. oui.
Voilà. Et
oui.
pour revenir à Valérie, donc à partir du moment que j'avais décidé de rentrer en politique avec elle, j'ai attendu quand même pas mal de temps avant de répondre. Et un matin, je me suis levée, j'ai dit voilà, je vais l'appeler. Je l'ai appelée, j'ai dit d'accord, je viens. Et tout de suite, dans la minute, elle m'a reçue. Et je ne l'ai jamais quittée. Je suis à la deuxième mandature.
C'est extraordinaire.
Et maintenant, elle est au présidentiel, on attend la suite.
Et là, vous, et donc dans ce cadre-là, à la région Île-de-France, vous avez créé plusieurs.
Ah oui, j'ai créé, voilà. D'accord, parce que moi, je suis déléguée spéciale de Valérie, auprès de la présidente, chargée de la gastronomie. C'est normal, parce que c'est mon cœur de métier. Et puis la gastronomie en politique, c'est la même chose. La politique est au cœur de la gastronomie,
oui.
la gastronomie est au cœur de la politique. Donc ça ne m'a pas changé tellement. Donc je continue mon métier, mais sur un angle différent.
D'accord.
Ça veut dire que je crée des choses. Je crée des choses pour toujours créer de la convivialité. Par exemple, là je suis en train de créer la fête des restos dans toute l'Île-de-France pendant tout l'été. Ça donne du bonheur aux restaurateurs qui ont été tellement impactés par la pandémie. Ils n'avaient pas de terrasse, donc Valérie et moi, on a décidé de leur offrir des terrasses sous les espaces publics pour leur permettre de travailler. Et figurez-vous, ils font plus de 30% de leur chiffre d'affaires sur les terrasses. Et en plus, on les a accompagnés massivement avec des prêts rebonds, avec des prêts résilience, avec des aides sur le loyer, avec des aides pour le numérique. On est au taquet et puis des aides aussi pour aménager leurs terrasses.
Ben
ah,
oui,
bon, on fait des choses. Et puis, je ne me suis pas arrêtée là puisque j'ai créé le parcours de la gastronomie en Île-de-France. Qui est composé de 6 sites. Donc le premier est ouvert, c'est l'hôtel de la Marine à Place de la Concorde. Je vous invite à aller visiter l'hôtel de la Marine Place de la Concorde, c'est très beau. Tout le rez-de-chaussée, c'est la gastronomie. Et puis il y a tellement de belles choses à voir. Quand vous prendrez l'escalier pour aller dans les étages, c'est à mourir de beauté. Et donc j'ai fait ça. Après, j'ai créé d'autres, la halle de Saint-Ouen et puis la chocolaterie de Noisel où était Nestlé.
Oui.
Autrefois, j'ai pris ça pour justement créer, recréer, redonner vie à cet endroit, pour de la fève au chocolat, pour que les enfants, sur un plan pédagogique, arrivent et voient comment c'est fait. Comment c'est le chocolat? C'est d'abord un fruit, après c'est les fèves et après la transformation jusqu'au chocolat. Ça, je fais ça. Et puis j'ai créé aussi dans l'abbaye de Coulommiers pour montrer aux enfants aussi comment du lait. À partir du lait, tu as le fromage.
Ça.
Et ça, c'est pédagogique en même temps. Et c'est bien pour les touristes de voir aussi comment on sauvegarde nos patrimoines gastronomiques.
Vous avez vraiment plusieurs casquettes, beaucoup de casquettes.
Et j'en ai 5.
Et comme vous aimez le soleil, c'est parfait. Alors,
actuellement, vous couper, je suis en train de faire la fête des seniors. Parce que j'ai estimé que les seniors sont trop souvent abandonnés. Il y a beaucoup de cas que je connais personnellement, des mamans qui ont travaillé toute leur vie pour élever des enfants et qui se retrouvent complètement abandonnées dans des maisons, dans des EHPAD, dans des maisons de vieux. Et ça, je ne tolère pas ça. Donc, pour donner du baume au cœur à ces seniors, avec Valérie Pécresse, on a créé la fête des seniors. Je les reçois une fois par an à la région. On fait d'abord un cocktail pour eux.
Ça.
Alors, ils se pouponnent, ils sont pas là.
C'est merveilleux.
Il drague aussi. Et puis après, on a un repas. Et après, je fais des ateliers de cuisine avec eux pour leur montrer comment bien cuisiner, acheter des bons produits pour bien manger et bien vivre.
Ce qui est merveilleux dans ce que vous dites, c'est que la cuisine lie toutes les générations. Elle relie l'humain.
La cuisine, c'est un pont. C'est un pont, c'est un lien social. Mmh. Personne ne se fâche autour d'une assiette. Dis-moi si tu as déjà vu quelqu'un se fâcher devant une assiette.
Et
on peut ne pas parler la même langue, on peut ne pas être de la même religion, de la même race, peu importe, on ne parle plus de race. Mais devant une assiette, on se comprend.
Oui,
on n'a pas besoin de se parler.
Oui, on se comprend et on est dans le cercle de venir pour agir, donc un cercle anthropologique. Babette de Rosière, sur la connaissance de vous-même, la cuisine est-elle un miroir?
Ah, c'est un miroir. Ah, mais c'est un miroir, ça reflète. Je dis que les plats reflètent la personnalité de la personne qui crée.
C'est ça.
Donc, c'est mon miroir. Ouais. Quand moi, j'ai une assiette vide devant moi, je fais ma cuisson et je commence à placer ce que j'ai cuisiné dans mon assiette. Mais c'est un amour extraordinaire. Ça reflète tellement de choses. Je me vois dedans. C'est trop beau.
Oui,
et puis mon assiette, une fois que mon assiette est préparée, je ne veux pas que le serveur bouge mon assiette. Je veux que l'assiette arrive telle qu'elle devant le client.
Oui.
Si mon assiette, il bouge un truc, je me fâche.
Ah oui.
Et il faut que... Ah ben ça,
non, mais
c'est...
Vous
il faut
êtes
que
une chef,
l'assiette
hein,
arrive nickel pour que le client apprécie le travail. Parce que nous, en cuisine, on confectionne une assiette pour chaque client. C'est pas, il n'y a pas de routine en cuisine.
Oui, c'est ça.
Les gens peuvent penser, oui, on cuisine tous les jours, c'est une routine. C'est pas vrai.
C'est ça.
Pour chaque client, tu cuisines différemment. Chaque client a une attention particulière.
C'est ça. Et chaque ça client est unique.
Est unique. Et il peut avoir 100 clients dans ton restaurant, mais l'assiette est unique. Et c'est ça la
unique.
Beauté de ce travail, de ce métier. Et
oui.
c'est ça qui me... J'en parle parce que...
Ah, mais on sent que vous en vivez,
j'aime
on sent
ça,
que... Oui,
j'aime ça. Je me demande même quand je serai au paradis, est-ce que je ne vais pas cuisiner?
Mais
vraiment,
si.
Il faut qu'on me mette au piano.
À la
tout
table
pour
de Saint-Pierre, tout à l'heure.
Ben voilà,
ben
il faut
voilà,
que je cuisine.
C'est ça. Alors, Babette de Rosière, tout à l'heure, au début de l'interview, vous avez dit une phrase qui m'a interpellé. Vous avez dit, j'ai toujours voulu évoluer dans la cuisine.
Absolument.
Et votre toujours m'a fait penser à votre livre, Toujours se relever, que vous avez publié en 2019,
ouais.
Et dont
toujours.
On va parler maintenant aux éditions
Ophi.
Babette de Rosière, pourquoi ce titre? Quelle est la temporalité dans votre vie?
Ce titre veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Si on analyse, toujours se relever.
Voilà.
Si je vous dis qu'est-ce que ça vous inspire, toujours se relever, ça vous parle ou pas?
Moi, ça me parle, c'est-à-dire que vous êtes tombé souvent et vous êtes toujours relevé. La détermination, votre
donc,
une de vos qualités.
Donc, le titre
veut
est tout
dire.
À fait à sa place.
Tout à fait à sa
parce
place.
Parce que moi, je dis tomber, c'est rien. Donc, tout le monde peut tomber. Tu peux être au firmament, demain, t'es rien.
Mais se relever, c'est difficile.
Et seul. Se relever et seul.
Seul. Vous dites un mot hyper...
Et seul.
Vous avez souffert de solitude.
J'ai souffert de beaucoup de choses.
Oui.
Quand j'étais enfant, j'ai souffert de la maltraitance. J'étais pas un enfant désiré, j'étais... Bon, bref.
Ce que vous racontez.
Mais
en
quand
effet,
je suis arrivée à Paris, j'ai aussi beaucoup souffert. Parce qu'on m'a pas apparu, on m'a pas tendu les bras comme ça. Il a fallu que je fasse mes preuves. En plus, comme il disait très bien à l'époque, j'étais de couleur. Je ne sais pas où se trouve la couleur. J'étais une personne de couleur. Quand j'allais chercher un logement, on me disait c'est loué. Ou alors on me disait on loue pas, personne de couleur. Non, il n'y a pas de place pour lui. Voilà. Donc c'était une souffrance. Mais je suis contente d'avoir vécu ça. Je suis contente d'avoir vécu ça parce que ça m'a carapacé. Ça m'a donné une personnalité. Ça m'a donné un punch. Ça m'a donné un caractère. Ça m'a forgé.
C'est ça.
Ça m'a forgé. Et je me suis dit, ce que tu vis là, eh bien, plus jamais tu vivras ça de toute ta vie. Il faut qu'à un moment, ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que tu te relèves. Il faut que tu relèves la tête. Il faut que tu montres qui tu es. Il faut montrer ta personnalité. Et c'est comme ça que tu vas te faire respecter.
Vous avez toujours cru en vous?
Toujours.
Que veut dire
je
croire
sais pas parce
en
que,
soi?
Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas eu le bonheur d'être enfant, j'ai pas connu le bonheur d'être enfant. Est-ce que c'est ça qui m'a permis d'avoir ce profond, c'est pas moi, j'ai une croyance tellement profonde en Dieu aussi, mais je me suis dit, tu te fais confiance, tu te prends en main, tu ne peux que réussir.
Oui.
Et pourtant, j'avais pas d'aide, j'avais pas de bras, j'avais pas de poutre pour m'appuyer, j'avais pas... Mais je me suis dit, tant pis, tu vas chercher du travail, tu feras porte à porte pour trouver du travail, tu vas passer des concours, tu finiras tes études, mais il faut que tu arrives.
Déterminé et persévéré.
Il faut que tu arrives. Et c'était ça, ça m'a hanté. Si bien que je travaillais à l'ORTF, le soir, j'allais travailler à l'hôtel Grand Hôtel, comme standardiste le soir, parce que je parlais anglais à l'époque un peu mieux. Et ça me faisait des sous en plus. Et en plus, c'était économique parce que je dînais gratuitement avec les chefs le soir et je prenais le petit déjeuner le matin. Donc, j'avais mes deux repas et le midi, je ne mangeais pas.
Oui.
Donc, et je faisais des économies parce que moi, j'étais hantée par l'idée de réussir.
C'est ça, vous avez persévéré.
Et je mettais mes petits sous. J'allais tous les samedis au marché Saint-Pierre. Je m'achetais du tissu parce que je n'avais pas les moyens à l'époque d'aller m'acheter des prêt-à-porter. J'allais acheter du tissu, des beaux tissus qui me plaisaient. Et chez moi, dans ma petite chambre de bonne, je coupais, je faisais le trou pour le cou, le trou pour les manches. Je faisais une couture ici, comme c'était les mini-jupes, une belle ceinture, paf, paf, bousée, un
C'était
petit
parfait.
collier. J'étais habillée et tout le monde croyait que j'avais des sous, oh là là, et tout habillée d'une façon différente. Et ben oui, je
Alors que
bluffais
c'est
tout le monde
faux,
comme ça.
oui.
Et j'allais chez André ou chez Bata, je sais pas, m'acheter des petites chaussures qui ne coûtaient pas rien. J'étais toujours coquette et tout. Tout le monde m'en vient et je disais, mais si tu savais ce que je porte,
Oui, c'est ça.
c'est même pas 10 francs de tissu.
Oui. Alors
Ouais.
quand j'ai lu votre livre, et vous le citez, j'ai pensé à une citation de Confucius que vous citez,
Ah.
mais vous ne citez pas celle dont j'ai pensé que je vous dis maintenant, qui à mon sens résume complètement votre vie.
Dites-moi.
Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais la persévérance.
Oui, parce que la roche, il faut la déplacer.
Tout à fait.
La roche, c'est. Mais oui, la roche. Mais voilà, je peux
Vous êtes un
m'assimiler.
roc.
Je peux m'assimiler à ça. Parce que la roche, quand elle est quelque part, elle ne bouge pas. Mais pour la déplacer, il faut du tempérament.
Oui, il faut de la détermination, il
Ouais,
faut
il
de la
faut. Ah oui,
confiance.
ah oui.
Et quelle est la. Tout à l'heure, vous parliez de la croyance que vous avez en vous,
Ouais.
mais aussi en Dieu.
Ah,
Quelle est
beaucoup,
la
beaucoup.
place
J'ai
de
bah,
Dieu
oui, Dieu
dans
a une
votre
place
vie?
importante, j'ai beaucoup prié. Et toujours, je continue, je prie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, je prie pour un oui, pour un non, je prie dans ma voiture, partout, je prie.
Quelle est la force de la prière dans votre vie?
Ça m'éclaire, ça me donne de l'espoir, de la persévérance et ça me renforce. J'ai été enfant de Marie quand j'étais petite.
Oui.
J'ai chanté dans les églises, j'allais, oui, parce que j'avais une grand-mère qui, elle aimait beaucoup aller, elle était très croyante, elle allait partout. Je me souviens, il y avait vêpres l'après-midi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il y avait le soir, à 18 h, encore une cérémonie, le matin, j'étais partout, j'étais tout le temps avec elle à l'église. Et puis après, j'ai changé je me suis, en grandissant, j'ai changé carrément de voie, j'ai quitté l'église catholique pour aller chez les témoins de Jéhovah. Parce que je voulais étudier la Bible, toujours par curiosité, parce que je suis très curieuse. Non pas parce que je voulais être témoin de Jéhovah, mais je voulais étudier la Bible, parce que ça m'intéressait d'étudier la Bible. Et je pense que depuis que j'ai étudié la Bible, j'ai appris une leçon de vie qui fait que tout ce que j'ai lu dans la Bible n'écarte pas mon esprit.
Oui.
Parce qu'il y a la Bible t'apporte des messages très 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 forts. Et tu es obligé d'avoir une ligne de conduite quand on te dit faut aimer ton prochain comme toi-même. Si, tu vois, il y a des choses qui te guident dans la vie. Quand tu as lu la Bible, eh ben, tu deviens tolérant, tu deviens généreux, tu deviens, je sais pas moi, tu es apaisé en quelque
Oui.
sorte. Tu vois la vie autrement. Même s'il y a des gens autour de toi qui te font n'importe quoi, mais toi, tu es ailleurs.
Oui.
C'est
Parce
ailleurs.
que.
Ça t'apporte une spiritualité qui fait du bien à l'âme et à l'esprit.
Et vous aimez le silence? Est-ce que vous
J'adore.
rencontrez Dieu dans le silence?
Vous
Ici, vous
savez,
êtes
quand je suis
extraordinaire.
dans
Mais
mon
oui,
jardin,
mais oui.
c'est le silence que j'apprécie.
C'est ça.
Pendant tout le confinement, j'étais ici couchée sur un transat avec mon mari. On écoutait le silence. Quand on écoute le silence, mais ça fait un bien, mais. Et quand on n'avion pas, ça nous dérange.
Oui.
Le silence est tellement beau.
Parce que le silence parle.
Le silence est éloquent.
Il nous parle,
Il est
oui.
très éloquent, le
Oui,
silence.
oui.
Ça révèle tellement de
Oui.
choses, le silence. Et quand tu l'ouvres, tu dis, zut alors, tu as fait un cauchemar de silence. Tu dis,
Alors,
zut, zut, on a fait un cauchemar de silence.
Babette de Rosière, l'interview va bientôt, malheureusement,
C'est terminé?
bientôt, il reste 3 minutes.
Non, mais ça va pas, non,
Mais si.
c'est une provocation. Venez chez moi jusqu'ici pour me dire que c'est bientôt terminé, on n'a même pas commencé.
Et alors, je voudrais poursuivre une ou deux questions sur votre livre. En lisant votre livre, j'ai beaucoup apprécié et aimé le sens que vous donnez aux rencontres.
Ah oui.
Vous passez votre vie
Ah
à
ouais.
rencontrer. Quelle est la
J'ai
force de la
rencontré.
rencontre
La
pour vous?
rencontre, c'est le partage. Pour moi, c'est comme la cuisine. C'est comme la cuisine, c'est le partage, c'est le côté social. Il faut toujours créer des liens, des ponts avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est très bien de faire connaissance avec quelqu'un, de parler, d'échanger, d'échanger de tout, de rien. Mais les rencontres, c'est très, très enrichissant. Quel que soit le niveau de rencontre qu'on a, c'est très, très. Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie. J'ai rencontré les plus pauvres, les plus aisés, les plus couronnés, tout le monde. Moi, je ne fais pas de distinction, je mets tout le monde dans le même panier parce que ce sont des humains. Mais à chaque degré, j'ai appris à comprendre l'être humain. comprendre comment ils fonctionnaient. Il y en a que j'ai pas envie de revoir, par exemple, parce que pour plusieurs raisons. Il y en a qui sont très suffisants, qui sont très méprisants, qui sont... Mais en dehors de ça, il y a des gens tellement charmants. Moi, je me suis entourée que de gens charmants. Les amis que j'ai, ce sont des gens que je porte dans mon cœur, ce sont des gens charmants. Figurez-vous, ici, chaque année, je fais une garden party, j'invite plus de 300 personnes ici.
Alors, bientôt, je pourrais venir.
Plus de 300 personnes ici, tous assis.
C'est extraordinaire, on imagine...
Autour d'un repas, je fais un vrai banquet. Les gens sont heureux, ils sont contents, mais c'est ça la vraie vie.
Mais vous transmettez la joie, donc on ne peut pas ne pas être heureux en vous voyant.
Voilà, partager, donner, c'est ça qui me porte. Parce que j'ai toujours envie de partager quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a vu que Jésus partageait. Moi, j'ai toujours, je suis quelqu'un qui partage, qui donne. Je suis très généreuse.
Oui, mais ça, ça se voit sur votre visage, votre être, votre sourire, votre joie. Vous êtes très généreuse, Babette. Vous sentez-vous une femme libre?
J'ai toujours été une femme libre. C'est pas que je me sens une femme libre. Ça c'est m'offenser en me disant ça. C'est pas que je me sens une femme libre. Je suis une femme.
Vous l'avez toujours été.
J'ai toujours été une femme libre. Quand j'ai décidé de couper le cordon ombilical. Sous prétexte de venir faire des études parce que j'avais que ça, histoire, géographie, que je n'aimais pas du tout, mais j'étais obligée, et bien parce que j'ai pris ma liberté.
Mais qu'est-ce que
à
la liberté?
À partir de ce moment-là, j'ai pris ma liberté.
Comment la définissez-vous?
La liberté pour moi, c'est de ne pas se faire emmerder. Voilà pour moi la liberté. Ne pas se faire chier, ne pas se faire emmerder. On ne se fait pas chier, on ne se fait pas emmerder. Voilà. À partir du moment que tu ne te fais pas chier et que tu ne te fais pas emmerder, tu es libre.
Et oui.
C'est simple la définition de la liberté pour moi. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et comme je veux. Voilà, et j'ai un mari aimant, alors là, nous, on s'éclate tous les deux. Voilà, ma vie est simple.
C'est extraordinaire.
Ma vie est simple.
Vous êtes l'ami de... Je viens de dire un mot qui m'a beaucoup interpellé dans ce livre. J'étais en train de dire, vous êtes l'ami de beaucoup, beaucoup de stars, beaucoup de grandes personnes. Vous avez une grande... Qu'est-ce qu'un ami pour vous?
Un ami, il n'y en a pas beaucoup, mais un ami, c'est quelqu'un qui... vis-à-vis de moi est honnête et simple et comment je dirais ça, qui est profond, qui n'a pas la langue de bois, qui peut tout me dire, à qui je peux tout dire, parce qu'il y a amis et amis, il y a des amis, c'est vraiment la brosse à reluire, il y en a, c'est la couche de vernis, mais un ami, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, c'est quelqu'un qui peut me renvoyer l'ascenseur un jour si j'en ai besoin, et c'est quelqu'un à qui j'ai totale confiance, et c'est quelqu'un qui, si un jour il a envie de me dire merde, il me dit merde. C'est d'abord ça.
Qu'il soit vrai.
Si l'ami, voilà, si l'ami, tout ce que tu fais, c'est toujours, c'est merveilleux, etc., il n'y a jamais un couic, il n'y a jamais un couac, pour moi, ce n'est pas un ami. J'aime pas les flatteurs. Et souvent, en amitié, on a des flatteurs. Et moi, j'aime pas les flatteurs. Je connais mes vrais amis. Et j'en ai des vrais amis. J'en ai beaucoup.
Quelle est la... C'est intéressant ce que vous dites. À quel moment vous voyez qu'une personne vous flatte?
Oh, je vois ça tout de suite. Je détecte tout de suite. Ah, ça, c'est pas compliqué.
C'est très intuitif.
Je vois aussi quand on me fait compte par intérêt.
Oui.
Je vois aussi quand on a besoin de me demander quelque chose. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. J'ai déjà compris.
Oui.
Et puis surtout, j'aime bien comprendre et entendre ce que les gens ne me disent pas. Ça, c'est ma grande spécialité. Quand on me dit des choses, j'écoute, mais j'attends surtout ce qu'on ne me dit pas.
Ah oui. Vous êtes vraiment...
J'aime bien entendre ce qu'on ne me dit pas.
C'est extraordinaire. Babette de Rosière, l'interview va s'achever.
Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'elle avait des dons de voyance. Je dis répondu non, mais j'ai une intuition, j'ai un nez, que quand ça bouge, ça ne me trompe jamais.
D'accord.
Je ressens les... C'est palpable chez moi, je ressens les choses.
C'est ce qui fait votre force.
Quand quelqu'un est à côté de moi, je sais très bien si c'est une... Je sais pas, je sens.
Vous sentez. C'est ce qui fait une de vos forces, une de vos qualités. Babette de Rosière, une toute dernière question. Moi, j'aimerais poursuivre l'interview.
Ben,
j'avais beaucoup d'autres questions.
Et puis des chouquettes.
Avec son manger.
Ben oui, mais il y a des chouquettes. Mais moi, je...
Pour votre époux.
Ah, oh, même mon mari est au régime, là, j'ai mis au régime, parce qu'il est trop gourmand.
Une toute dernière question, Babette, ce cercle Devenir pour agir est destiné à la jeunesse.
Ah, c'est
Des
bien.
milliers de personnes nous regardent chaque semaine.
Ah mon Dieu, la jeunesse,
Babette
mon
de
Dieu, la
Rosières,
jeunesse.
quel message d'espérance pouvez-vous aujourd'hui à celles et ceux qui vous écoutent, quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser?
Ben, je vais leur dire, d'abord, il faut croire en soi. Ça, c'est très important. Croire en soi, s'aimer soi, se regarder et se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, quand on a choisi une voie, toujours s'y tenir, jamais lâcher. Même s'il y a des problèmes, même si c'est, la vie n'est pas simple, quel que soit le problème, à partir du moment qu'on a, on s'est tracé une voie, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà le conseil que je donne surtout aux jeunes. Et puis croire en soi, c'est formidable. Confiance en soi, c'est génial. Même si on vous dit que vous avez un œil comme ça, vous avez un pied beau, vous avez ci, il faut croire en soi, il faut s'aimer, avoir confiance en soi. Et tout ça, ça passe.
Les amis, quel beau message d'espérance notre amie Babette vient de vous offrir.
Oui, j'adore la jeunesse, elle est belle. La jeunesse.
Ah oui, la jeunesse est belle.
Elle est belle, la jeunesse.
Ah oui, merci Babette, merci pour ce moment. Les amis, deux choses. Venez et accourez, déguster la cuisine de Babette dans la case de Babette à Maule, dans les Yvelines. Il faut retenir, ne l'oubliez pas, retenez votre couvert. Et empressez-vous d'aller vous procurer le livre de Babette de Rosières, Toujours se relever, aux éditions Orphie. Magnifique témoignage de vie, de persévérance, de combativité, de croyance en soi et de résilience. Merci Babette de m'avoir reçu.
On est bien ici.
On est magnifique.
Oh là là.
J'aurais aimé rester.
On est trop bien là.
Mais permettez-moi de terminer par un grand philosophe, Horace.
Oui.
Qui exactement a dit ce que vous venez de dire aux jeunes.
Non.
Vous voyez, regardez ce qu'il dit. Celui qui a confiance en soi mènera les autres.
Mais bien sûr.
Je crois, mais Babette, c'est...
Oui.
Vous menez le monde entier.
Parce que t'as confiance en toi.
Voilà.
Tout...
Vous menez le monde entier. On a envie de vous suivre.
Ah ben suivez-moi.
Et ben voilà, suivez-moi. Merci pour votre
Avec
joie.
Plaisir. Merci.
Et bonne continuation, bon courage et merci pour tout ce que vous
merci.
Faites pour la gastronomie, pour la France.
Et là j'ai une mission que le ministre de l'Outre-mer vient de me confier. Hein.
Oui. Alors quelle est-elle?
C'est une mission où je dois faire un rapport sur toutes les cuisines des Outre-mer pour valoriser et promouvoir la cuisine et protéger aussi la cuisine des Outre-mer.
Vous allez réussir,
ah,
on a confiance en vous.
Me
Merci infiniment, merci.
Merci à vous.
Merci.